إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette explication du livre de l'unicité de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Nous en sommes au chapitre à propos de la parole d'Allah le Très-Haut. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, ô prophète, et à ceux qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tâghût, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Sourate An-Nisa, verset 60. Donc ce chapitre, c'est le chapitre qui expose le statut de se faire juger par autre que la loi d'Allah, et que le fait de se faire juger par autre que la loi d'Allah est contraire au tawhid, car le tawhid exige que l'on rejette toutes les lois autres que la loi d'Allah Ta'ala et que les jugements de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le tawhid exige qu'en cas de divergence on revienne pour se faire juger selon le Coran et la Sunna, selon la révélation. Et le fait de sortir de cela fait partie de shirk al-ta'a, du polythéisme dans l'obéissance. Cette situation est de trois catégories. Écoutez bien, les personnes qui se font juger par autre que la loi d'Allah sont de trois catégories. La première catégorie, qui est du polythéisme majeur, du shirk akbar, c'est la personne qui se fait juger par autre que la loi d'Allah, et dans son cœur, il y a la satisfaction et l'agrément de se faire juger par autre que les lois de la législation islamique, et l'acceptation et l'amour pour ces lois-là, c'est-à-dire pour ces lois qui sont autres que les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci est du polythéisme majeur. Donc quand la personne a ce désir dans son cœur de se faire juger par autre que les lois d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de se faire juger par autre que Allah Ta'ala et les jugements qu'il a révélés à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est du polythéisme majeur. Et cette volonté est un acte intérieur, caché, qu'on ne peut connaître que avec des preuves extérieures qui dirigent ou qui exposent cette volonté. Car Allah Ta'ala, dans ce verset de ceux qui veulent se faire juger par le Tâghût, il parle des hypocrites. Et juste après ce verset, qui est le verset du chapitre, Allah tabaraka wa ta'ala dit: « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. » Et quand on leur dit « Venez à ce qu'Allah a révélé et à son messager », tu vois les hypocrites rejeter cela et s'écarter très loin de toi, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah ta'ala, dans sourate An-Nisa, a montré les caractéristiques et les preuves extérieures comme quoi ces personnes, ces hypocrites, voulaient et aimaient et désiraient se faire juger par le parout et par autre que la loi d'Allah Ta'ala. Et c'est le fait qu'ils refoulent, qu'ils rejettent, qu'ils s'écartent de la loi d'Allah Ta'ala, ils ne la désirent pas, ils ne l'aiment pas. Cette question de se faire juger par autre que la loi d'Allah est une question très pointilleuse et qui nécessite de réunir toutes les preuves du Coran ou de la Sunna pour bien la comprendre. Donc la première catégorie qui est du shirk akbar, c'est quand la personne, elle désire, elle agrée, elle accepte et elle aime le fait de se faire juger par autre que la loi d'Allah. Et elle refoule, elle rejette la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est du polythéisme majeur. C'est du shirk akbar, comme les hypocrites de l'hypocrisie majeure à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, dont ce verset parle. La deuxième catégorie, qui est du polythéisme mineur, du shirk asrar, une grande désobéissance, c'est un grand péché, il fait partie des plus grands péchés, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. C'est quand la personne n'agrée pas et n'aime pas ces lois-là, et son cœur ne penche pas vers ces lois qui sont les lois autres que les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il y a répondu pour un intérêt mondain, pour dunya. Il a un intérêt à se faire juger par ces lois-là, alors il y a répondu. Ou bien parce qu'il a une ambiguïté. On lui a fait croire que c'était permis en islam, il est ignorant. On lui a fait croire que cette loi n'est pas contradictoire aux lois de l'islam, par exemple. Il a une ambiguïté. Ou bien pour un désir, une passion. Mais il n'agrée pas qu'on juge par autre que les lois d'Allah. Il n'agrée pas cela, il n'aime pas cela, il ne penche pas vers cela. Et il ne refoule pas, il ne rejette pas, il ne déteste pas les lois d'Allah, tabarak wa ta'ala. Ceci est du polythéisme mineur. La troisième catégorie, c'est la personne qui se fait juger par autre que les lois d'Allah par contrainte, pas par son choix. Car il n'a aucun moyen de récupérer ses droits que de se faire juger par ses autres lois que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il le fait comme un cas de nécessité, comme une personne qui est contrainte. Effectivement, la plupart des pays sont aujourd'hui éprouvés par le fait d'être jugés par autre que les lois d'Allah. Une personne se fait voler ses biens. Comment il va faire pour récupérer son bien qui s'est fait voler? À part aller voir la police et porter plainte contre cette personne pour récupérer son bien qui a été volé. On voit ici qu'il va aller voir, bien qu'il juge par autre que la loi d'Allah, mais pour récupérer un droit qu'Allah Ta'ala lui a garanti. Car le vol est interdit en islam et dans leur loi inventée aussi, ils l'interdisent le vol. Donc la personne, il ne peut pas se faire justice lui-même. Il ne va pas aller avec une arme récupérée, c'est bien qu'il a perdu. Sinon, c'est l'anarchie. Sinon, il va y avoir que l'injustice, parce qu'au bout du compte, chaque personne qui se sent opprimée, il va vouloir se faire justice lui-même. Et au bout du compte, ça va être la loi de la jungle. Donc, dans ce cas-là, il est permis aux musulmans de récupérer un droit que l'islam lui a garanti, que la charia lui a garanti, et non pas quelque chose de supplémentaire à cela. Par exemple, en islam, s'il est déterminé que pour la perte de telle chose, on récupère tant d'argent, par exemple. Il n'a pas le droit de récupérer plus. Il n'a pas le droit de demander, par exemple, dommages et intérêts. Il demande des intérêts en plus des dommages. Non, il se fait rembourser les dommages. Donc, dans ce cas-là, cette personne n'a aucun péché et elle n'a fait cela que par contrainte pour récupérer un droit ou un bien que l'islam lui a garanti. Donc, on voit bien ici les trois catégories. Et la première catégorie de ceux qui se font juger par autre que les lois d'Allah, par désir, par amour, par acceptation de cela, et par refoulement, rejet, et ils n'aiment pas se faire juger par les lois d'Allah. Ceux-là, ce sont des kuffars. La deuxième catégorie, c'est celui qui le fait pour un intérêt mondain, pour une place, pour une chose qu'il veut gagner, pour un désir, pour une passion, pour une envie, tout en n'agréant pas, il n'agrée pas, et il n'accepte pas, et il n'aime pas les lois qui contredisent la loi d'Allah, tabarak wa ta'ala. Ou alors, il a une ambiguïté. On lui a fait croire que ces lois ne sont pas contradictoires à l'islam, que ça fait partie des choses de la vie, que chacun est libre de les faire comme il veut. Il a une ambiguïté. Il est ignorant, par exemple. Celui-là, il a fait du shirk asrar, du polythéisme mineur. Et la troisième catégorie, c'est celle que l'on vient de citer. C'est la personne qui fait cela par contrainte, pour récupérer un droit que l'islam lui a garanti et lui a préservé. Puis le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a cité la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a dit, et Allah a dit, وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur terre, ils disent au contraire nous ne sommes que des réformateurs. Sourate Al-Baqarah, verset 11. Il dit aussi ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Et ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle eut été réformée. Il dit encore أفحكم الجاهلية يبغون. Est-ce donc le jugement de l'époque pré-islamique qu'il cherche? Puis la cité des hadiths. Le premier, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Aucun d'entre vous ne sera parfaitement croyant tant que ses désirs ne seront pas en conformité avec ceux qui m'a été révélé. » Nawawi a dit « Ce hadith est authentique, nous l'avons rapporté dans Kitab al-Hujjah avec une chaîne de rapporteurs authentiques. » Et en vérité, les savants du hadith voient que ce hadith est faible. Puis il a cité Al-Sha'bi, rapporte le récit suivant. Une dispute éclata entre un hypocrite et un juif. Ce dernier proposa, allons-nous départager auprès de Muhammad, car il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'acceptait pas le pot de vin. Quant à l'hypocrite, il déclara, allons plutôt nous départager auprès des juifs, car il savait que ces derniers les acceptaient. Les deux protagonistes se mirent alors d'accord pour régler leurs différends auprès d'un voyant de la tribu de Kihana. C'est la raison pour laquelle fut révélé le verset suivant « Alam tara ila alladhina yaz'umun » « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent ?» On dit aussi qu'il fut révélé au sujet de deux hommes qui s'étaient disputés. L'un d'eux dit « Allons régler notre différend auprès de Muhammad ». L'autre rétorqua « Allons plutôt voir Ka'b ibn al-Ashraf ». Il convint finalement de se rendre chez Omar. L'un des deux lui conta l'affaire. Omar dit alors à celui qui avait refusé le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Est-ce ainsi que cela s'est passé ?» Il lui répondit affirmativement. Omar le tua alors d'un coup d'épée. Ces deux récits, ils ne sont pas authentiques. Le hadith de Sha'bi, Sha'bi rapporte le récit suivant. Sha'bi est un tabi'i, donc c'est un hadith mursal, il est faible. Et le deuxième récit, on dit aussi qu'il fut révélé au sujet de deux hommes qui s'étaient disputés. Celui-ci, de Ibn Abbas, Al-Kalbi, l'a rapporté dans son tafsir, et Al-Kalbi... Il est accusé de mensonge. Donc ce hadith est très très faible. Et en vérité, il y a une version authentique de la cause de la révélation de ce verset qui a été rapporté de Abdullah ibn Abbas, qui est autre que ces deux histoires. Concernant les trois versets après le verset du nom du chapitre que le cheikh a cité. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur terre » et l'autre verset « Et ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle eut été réformée. » Comment ils sèment la corruption? En se faisant juger par autre que la loi d'Allah. En changeant, en n'acceptant pas le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la charia. Et en cherchant à se faire juger par les lois des hommes. Ça, c'est une manière de semer la corruption sur terre. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala dit « أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ » Est-ce le jugement de l'époque pré-islamique qu'ils cherchent? Ici, Allah tabaraka wa ta'ala leur reproche le fait de chercher à se faire juger par autre que la charia. Et aussi, il a appelé ces lois qui sont contradictoires à la charia, al-jahiliya, ce qui fait partie de l'époque de l'ignorance, de l'époque pré-islamique, anté-islamique. Et tout ce qui est nommé jahiliya, c'est haram. En islam. Allah tabaraka wa ta'ala dit après cela dans son livre وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en loi et en règle pour des gens qui ont la certitude dans le sens de sa parole? Les points à retenir de ce chapitre. Premièrement, l'explication du verset de Sourate An-Nisa et l'éclaircissement qu'il apporte au sujet du terme Tarut. Deuxièmement, l'explication du verset de Sourate Al-Baqarah وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. Et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur terre. Troisièmement, l'explication du verset de Sourate Al-A'raf وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Et ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle eût été réformée. Quatrièmement, l'explication du verset أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ dans Sourate Al-Ma'idah, verset 50. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? Cinquièmement, les propos de Sha'bi concernant les circonstances de la révélation du premier verset. Donc, on a dit que c'est un hadith mursal, donc il n'est pas sahih. Sixièmement, la définition de la foi sincère et de la foi mensongère. Septièmement, l'histoire de Omar avec l'hypocrite. On a dit que ça, c'est rapporté par Al-Kalbi dans son tafsir. il a été accusé de mensonge. Donc, c'est un hadith très très faible. Huitièmement, la foi d'une personne n'est complète qu'à condition que ses désirs soient en conformité avec la révélation faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.